Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes, en quête de sagesse ou tout simplement inspirés, nous prêtent leurs lunettes pour voir le monde tel qu'ils le contemplent. Vous êtes dans l'émission Envie de sagesse. Bonjour à tous. Alors j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Marc Vella.
Bonjour Myriam.
Alors Marc, vous avez plusieurs cordes à votre arc puisque vous êtes musicien, écrivain, conférencier et aussi fondateur de l'école de la fausse note.
Oui, de l'école de la fausse note, oui.
Voilà.
Donc les parrains sont Pierre Richard et Brigitte Lahaye.
Et donc vous produisez actuellement, donc ce soir vous êtes à Saint-Pécéré dans le Gers. Et vous proposez quoi, une conférence ?
Je donne une conférence, oui, sur le thème justement de la fausse note. Le thème de la conférence, c'est « Vous avez été jugé insuffisant ». Et voilà, puis j'enchaîne demain sur un stage qui s'appelle « Rendre belles les fausses notes de la vie ».
Ah oui, un beau programme. Et donc nous espérons qu'à Radio Bulle, notre émission sera sur la bonne note.
Oh, mais Myriam, avec aussi des fausses notes, il ne faut pas en avoir peur. Nous sommes des êtres humains, inévitablement parfois défaillants, maladroits, enfin humains quoi. Il ne faut pas être traumatisé avec la maladresse.
Tout à fait. Alors je voudrais commencer par le musicien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours de musicien ?
Oh, on va faire court parce que c'est pratiquement toute ma vie. J'ai commencé très tôt, voilà, je devais avoir 4-5 ans. Il y avait un piano là où je vivais, je vivais seul et j'avais peur à la ferme parce que j'étais toujours seul. Donc je faisais du piano pour couvrir les craquements de plancher, les portes qui grincent avec les courants d'air. Donc pour me rassurer, j'ai fait beaucoup de musique. Voilà, puis quand j'étais repris, il y avait beaucoup de violence là où j'étais, donc il y avait encore un piano. Je dirais que dans mes enfers, il y a toujours eu un piano. Ce qui fait qu'arrivé à l'âge de jeune homme, le monde n'était pas simple à l'époque aussi. Il y avait du chômage, des conflits, de la violence, et le piano me rassurait. Avec lui, je me sentais plus fort. Voilà, donc j'ai continué ma vie avec lui.
Et où puisez-vous votre inspiration ? Parce que vous êtes toujours pianiste aujourd'hui.
Où je puise mon inspiration. Je crois qu'essentiellement, c'est l'amour. J'ai vraiment pas d'autre mot. C'est l'émerveillement que peut me procurer les êtres, déjà, que peuvent me procurer les êtres humains. Comme je le disais tout à l'heure, inévitablement, ces êtres ont des défauts, mais qui n'en a pas. Mais en même temps, ils sont très touchants. C'est une question de regard, en fait. Quel regard je peux porter sur les gens ? Soit j'ai ce regard qui, chaque fois, démolit, chaque fois qu'il y a maladresse, soit j'essaie d'avoir un regard plus bienveillant, avec plus d'empathie ou plus de compassion, selon les personnes. Et très vite, on se rend compte que souvent, les autres sont des miroirs, voilà, qui sont très précieux parce que précis.
Et donc là, vous nous évoquez un petit peu votre regard déjà à travers la musique, mais par rapport à l'inspiration, vous êtes aussi compositeur et vous êtes aussi improvisateur. Pouvez-vous nous préciser un petit peu ?
C'est intéressant ce mot, improvisateur. C'est chouette de l'avoir divisé comme ça, j'y avais jamais pensé.
C'était pas fait exprès.
Je vise professionnellement la beauté en fait de ce monde. Comment dire, à l'âge de 20 ans, j'ai fait ce choix de prendre mon piano et de partir sur les routes avec lui pour justement vivre ce monde. J'avais conscience déjà très tôt qu'on va le quitter. Un jour, nous allons mourir et ce jour, c'est tout à l'heure. C'est, voilà, la vie, elle passe comme un souffle, hein, l'existence. On s'imagine qu'on va durer longtemps. Ça, c'est une illusion totale. Donc, j'ai pris ce piano et effectivement, j'avais envie de découvrir, voilà, des différences à la fois musicales et puis, voilà, de toute cette variété des êtres, des façons d'appréhender la vie. Et c'est vrai qu'en 35 ans, j'ai fait plus de 6 tours du monde avec ce piano.
Et
plus
oui,
de 50 pays. Ouais.
C'est l'album photo que vous m'avez proposé de feuilleter tout à l'heure. J'ai vu que vous avez parcouru tellement de pays différents. Et à chaque fois que vous allez dans un pays, vous faites participer les gens.
qui viennent jouer avec vous au piano.
Oui, c'est clair que si j'arrive dans le pays avec mon piano, en disant, avec un service d'ordre, et en disant « taisez-vous, je vais vous jouer du Schumann et on va vous montrer ce que c'est que la culture », ça n'a aucun sens, puis je crois que je serais déjà mort. Je pense qu'on m'aurait tué. Non, le piano est un cheval de Troie, voyez-vous. Donc on le met sur une place, les gens ne se méfient pas, ils s'approchent. Et là, c'est l'histoire de la caravane amoureuse, vous savez.
Oui, voilà. Et que peut-être les auditeurs, on pourrait peut-être en dire du coup quelques mots. La caravane amoureuse, qu'est-ce que c'est ?
J'ai fondé ça il y a plus de 15 ans maintenant. C'était l'idée d'envahir les autres pays amoureusement. Alors c'est bizarre, évidemment, l'auditeur, il va entendre ça, il est complètement... c'est un doudingue, ce type. Mais enfin, bon, bizarre. Envahir un pays avec des kalachnikovs, massacrer les gens, décapiter les enfants, enfin, toutes les horreurs qu'on peut entendre aujourd'hui. Et aller envahir un pays avec un piano et faire des bisous, c'est bizarre. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Mais dans quoi tu veux engager ta vie ? Toujours dans la même résignation, la même acceptation de l'horreur ? Est-ce que tu n'as pas envie de t'engager pour que, même si moi je n'ai pas la prétention que les choses vont changer, j'ai même cru naïvement à 25 ans que j'allais changer les choses. Bon, j'en ai 60 et je vois bien que même le monde s'est aggravé. Mais néanmoins, ce que je sais, c'est que quand on va sur Internet, sur mon site, marcvella.com, et qu'on voit les images de la caravane amoureuse, toute cette joie, tous ces sourires, moi je me dis, c'est quand on a traversé la Syrie, et quand on voit les enfants qui jouent du piano, qui rient, ces hommes qui étreignent les caravanières, ces femmes qui dansent avec les caravaniers, l'accordéon, voilà, qui fait danser les foules. Enfin voilà, je me dis, cette joie que ces gens ont pu prendre, se sont écoulées 10 années de guerre. Et je me dis que pendant ces 10 années où j'ai perdu beaucoup d'amis, des endroits où j'ai joué qui ont été rasés au bulldozer par Daesh, je me dis que cette joie, peut-être, c'est un peu comme des réserves qui peut-être leur ont permis de tenir.
Oui.
Ça compte.
Oui, bien sûr.
Donc on n'a peut-être rien changé, mais c'est important.
Peut-être tout.
Peut-être tout, oui, Myriam. Absolument.
Mais en fait, c'est finalement un acte de résistance dans ces pays en guerre que d'amener de la musique et du piano.
Je ne sais pas. Je dirais que c'est
à votre manière.
C'est disons, je dirais pas résistance. C'est un souffle. Pour moi, la résistance, elle est ailleurs. La résistance, elle est dans la décision que je vais prendre définitivement, qui est celle de me réapproprier un mot terrible, qui est le mot jouissance. Ce mot jouissance, il a été diabolisé pendant des millénaires. Il a été ensuite rangé dans les années 70 dans la sexualité, tristement rangé, voilà. Et puis, tristement, parce qu'on voit bien comment il est instrumentalisé à travers, je dirais, les marchandises. Voilà. Aujourd'hui, la jouissance, elle est donc autorisée finalement à travers l'image que l'on connaît, donc de la sexualité, la pornographie. C'est juste déplorable. On referme vite cette fenêtre. Alors après, jouir de soi-même, vous n'y pensez pas, ma chère Myriam. Voilà, j'évoquais l'histoire de Florette, voilà, cette personne-là qui a ouvert ce restaurant à Villeneuve-sur-Lot, qui suit sa destinée, qui veut être cuisinière. Voilà, elle, parce que c'est sa jouissance. Mais aujourd'hui, est-ce raisonnable de suivre son cœur ? Et finalement, là, parce que dès qu'on ose soi, beaucoup de gens vont vous dire « Mais tu te prends pour qui ? Tu crois que tu vas en vivre ? Est-ce que c'est raisonnable ?» Voilà, voyez-vous, donc c'est compliqué. Donc la seule issue qui reste dans la jouissance aujourd'hui, c'est sa marchandisation, c'est là où on peut s'épanouir, c'est à travers les grandes surfaces comme Auchan, Carrefour et autres, voilà, ou alors conduire la dernière Peugeot. Voilà, ça d'ailleurs les publicitaires savent très bien utiliser des voix féminines ou masculines qui nous invitent à cette jouissance à travers le produit. Et je crois que résister à ce monde, c'est se réapproprier ce mot qui est de celui de jouir déjà de soi-même, voilà, d'être heureux d'être ce que nous sommes, d'arrêter de se sentir coupable. Aujourd'hui, de cette idée récurrente qu'ont les gens, le nombre de gens que je peux entendre à l'école de la fausse note qui me disent « Oh, je ne vaux pas grand-chose, monsieur. » Il y a une femme, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Oh, je suis une sous-note. » Ou un jeune garçon, un adolescent qui me dit « Bon, je suis de la merde, monsieur. » Voilà. C'est comment, dans cette société, on a réussi à dévaloriser les êtres.
Oui.
Et ça, c'est pour moi la pire des choses. Donc, résister, c'est déjà « waouh, je suis magnifique, je m'aime, j'ai de la valeur, je suis important, je compte ». Et puis s'autoriser, s'accorder la vie, s'accorder la joie, ce plaisir simplement celui d'exister, d'honorer ce que nous sommes. C'est ça la première des jouissances.
Oui, ça me renvoie à cette citation dont nous avions parlé sur Radio Bulle d'Albert Einstein avec les petits poissons. Vous savez que si on leur apprend à grimper aux arbres, ils croiront toute leur vie qu'ils sont stupides.
Oui, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, c'est absolument effrayant. C'est un paradigme, l'insuffisance coupable. Ça a commencé, si vous voulez, ça a été un dogme d'église. Voilà, nous étions indignes du trône de Dieu. Voilà, nous sommes des pécheurs. Et puis ce dogme est devenu un dogme d'État. Il est clair qu'à l'école, quand on se trompe, on n'a pas 20, on n'a pas 18, on a 0. Il y a une phrase d'ailleurs sur le bulletin scolaire qu'on mettait. C'était quoi cette phrase, petit, qu'on mettait ? Vous rappelez, Myriam, cette phrase ?
Alors, je pense que c'est « peut mieux faire ».
Ah ! Hein, c'est ça, « peut mieux faire ». Et cette phrase, elle n'est pas méchante, elle te dit « tu peux mieux faire », sauf qu'elle est souvent accompagnée de critiques, de mauvaises notes. C'est donc l'idée de comme l'erreur est pénalisée, elle est donc coupable. C'est donc bien d'insuffisance coupable dont nous parlons. Et ça, c'est vraiment l'arme de destruction massive.
Oui.
C'est l'arme de destruction massive.
Le jugement sur soi, finalement.
Oui, parce qu'effectivement, ce peut mieux faire va se, j'ai pas d'autre mot, mais se métastaser comme un cancer. Et on va vraiment le matin devant le miroir, avant de prendre sa douche, tout nu, on se regarde, on est là, peut mieux faire. On n'arrive même plus à s'accueillir soi-même. Oui. Voilà, on n'est plus dans la jouissance de soi, de ce que je suis. Donc on est dans un système d'exclusion institutionnalisée qui est d'une véritable violence. Il y a une vraie maltraitance aujourd'hui. Parce que la valeur d'un être humain n'est même pas discutable. Un être humain, il est sans prix. Et tant que je n'ai pas compris ça, eh bien sa maltraitance perdurera.
Et je voudrais m'intéresser aussi à votre parcours d'écrivain. Je vais citer quelques-unes de vos œuvres. Alors, il y a bien sûr l'éloge de la fausse note. Et puis, vous avez aussi écrit Le funambule du ciel, Le pianiste nomade, Le chant des libres, La caravane amoureuse, La clé d'être. J'ai à peu près tout dit.
Oui, oui, c'est très, très, très bien.
Je les ai cités parce que ce sont des titres très évocateurs. Et ils invitent tous, alors, bien sûr, au voyage. Et puis, je dirais aussi à la liberté. Est-ce que c'est un axe central pour vous ?
Ben oui, vous parliez tout à l'heure de résistance, la liberté. Pour y arriver, il faut se réapproprier ce mot jouissance. Le mot jouissance, ça signifie ouïr le sens du jeu. Dans la langue des oiseaux, je vous invite à consulter sur le net Patrick Buren-Stenas. C'est la langue des oiseaux. Ouïr le sens du jeu. Le jeu du jeu, d'ailleurs. Et oui,
le jeu J-E ou
oui,
le jeu J-E.
Les deux, justement, le jeu du jeu. La vie est un jeu, et un jeu sans enjeu. Ça, c'est très important. Voilà, c'est juste la pleine présence. La pleine présence en jouissance. D'ailleurs, il y a un mot à la mode aujourd'hui, on parle souvent de nouvelle conscience. Qu'est-ce que la conscience ? Eh bien, la conscience, c'est justement ça. C'est la pleine présence en jouissance. Ouïr, c'est un verbe qui signifie... deux choses, en fait. Il signifie à la fois entendre et comprendre. Beaucoup de gens vont vous dire « j'entends ce que tu m'as dit », mais ils n'ont rien compris en réalité. Ou alors ils peuvent dire « tiens, j'ai compris », mais ils n'ont pas entendu. Ouïr et entendre, c'est entendre et comprendre à la fois. Ouïr le sens. Et c'est tellement important. Tellement de gens disent aujourd'hui « ma vie n'a pas de sens », ou « je n'en vois pas le sens », ou « j'ai perdu le sens ». Donc vous comprenez bien que quand c'est comme ça, eh bien, il n'y a pas de jouissance. Il y a de la souffrance, il y a de la détresse. Donc, ouïr le sens du jeu, c'est ça la jouissance, c'est ça la liberté. Donc, ça n'a rien à voir avec cette quête de jouissance, parce que les gens cherchent la jouissance, je l'évoquais tout à l'heure, à travers donc la sexualité, à travers les choses.
La consommation.
Alors qu'en réalité, elle n'est pas à rechercher. Nous sommes cela. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Eckhart Tolle dans son livre « Le pouvoir du moment présent ». Il nous dit que notre essence profonde, c'est notre nature, est jouissance. Nous sommes cela. Mais que dit le dicton ? Chasser le naturel, il revient au galop. Donc, on nous a mis dans une sorte de, je dirais, de position où il nous faut être en guerre contre nous-mêmes. La preuve en est, c'est très simple, c'est que justement, lorsque nous avons envie de nous réaliser dans notre vérité, je l'évoquais tout à l'heure, il y a ce que j'appellerais, moi, ce phénomène d'excision sociale. Comprenez, c'est le nœud gordien du monde, la jouissance. C'est le vrai problème. Des petites filles qu'on excise par millions en Afrique, l'excision était une réalité qui se pratiquait en Europe, il faut le savoir, au 19e siècle et en Amérique du Nord. Aujourd'hui, elle ne se pratique plus, mais quand on dit à quelqu'un « t'es nul, tu vaux rien, c'est pas pour toi, de toute façon, tu n'y arriveras jamais », etc., enfin, toutes ces phrases... C'est ça l'excision psychologique, voyez-vous, qui va créer pour moi toutes ces détresses effroyables.
Je vous propose, Marc, d'écouter une de vos œuvres, et donc vous avez choisi. Est-ce que vous pouvez nous dire le titre ?
Oui, c'est j'avais envie de vous faire écouter une œuvre de jeunesse que j'ai écrite quand j'avais 20 ans, voilà, qui s'appelle, c'est pour piano, et ça s'appelle « Les eaux jaillissantes », justement, « Les eaux jaillissantes ».
De la liberté.
Absolument, faire jaillir ce qu'il y a à l'intérieur de toi et l'offrir au monde.
On l'écoute. Thank you. Vous êtes toujours dans l'émission Envie de sagesse avec Myriam et je suis en compagnie de Marc Vella. Nous venons d'écouter une de vos œuvres, Marc, et je me rends compte que vous êtes un vrai pianiste virtuose. Même si je le savais, c'est quand même impressionnant. La musique a baigné toute votre vie ?
Oui, on peut dire ça, oui, effectivement.
Comme vous disiez tout à l'heure, depuis la toute petite enfance.
Oui, absolument. Je ne pensais pas en faire mon métier, en fait. C'est parce qu'à côté de ça, j'ai fait des études de philosophie et j'étais en classe prépa pour entrer à Normale Sup Philo. Mais voilà, le piano a été tellement, je dirais, c'était à 20 ans, il y avait vraiment une, je pensais qu'à lui. Donc j'ai tout quitté, j'ai intégré le Conservatoire de Paris, j'ai remporté mon prix de compositeur. Et puis quelques années plus tard, j'ai remporté le premier prix de composition à Rome. Voilà, et puis à côté de ça, j'ai fait une tournée planétaire, voilà, où j'ai joué ma musique partout.
Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Et alors, vous avez fondé, il y a quelques années quand même, l'école de la fausse note. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, alors, oui, c'est plus récent que ça, en fait. Ça fait maintenant, c'est très récent. L'école de la fausse note existe depuis un an.
Ah, depuis un an seulement ?
Oui, un an et demi à peu près, un peu moins.
Et d'où vous est venu ce concept ?
D'abord, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Éloge de la fausse note ». Voilà, ce livre qui est d'ailleurs préfacé par Pierre Richard, pour la simple et bonne raison que le roi de la fausse note, le roi de la gaffe, de la bourde,
oui,
c'était vraiment la personne idéale pour qu'il fasse la préface. Et ce livre a touché beaucoup, beaucoup de monde. C'est devenu un best-seller. Il est sorti au Québec. Et ce livre voilà, marche très, très, très fort au Canada. Il est tout à fait disponible en France, voilà. Et comment dire, je me rendais compte qu'effectivement les gens étaient empêtrés dans des problématiques liées à l'existence, voilà, des séparations, des décès, des souffrances. Je voyais bien que la fausse note, c'était quelque chose qui était tout de même récurrent. On est dans une société où on évoquait tout à l'heure son paradigme, la faute coupable. Mais dans ce cas-là, il faut déjà commencer par le début, finalement. Qui nous envoie en premier des fausses notes, si ce n'est pas la vie ? La vie... on est dans une société où on veut éradiquer les fausses notes, voilà, puisque c'est coupable. Donc on met des caméras, on contrôle, on surveille, on juge, on exige le parfait. Et c'est juste impossible. Les gens font des burn-out. On est le pays, je crois, en France, où on mange le plus d'antidépresseurs. Enfin, voilà. Et dans beaucoup de pays, d'ailleurs, occidentalisés, c'est juste dramatique. Avec toutes les maladies inhérentes à cette chimie, voilà, qui viennent en ce moment, on ne sait pas trop ce que c'est, comme Alzheimer, et, Parkinson et toutes ces choses-là incroyables, qui sont certainement liées à cette volonté d'éradiquer. Voilà, les vaccins, etc. Cette volonté d'éradiquer les fausses notes, c'est de la folie. Parce que la vie et la fausse note, c'est la même chose.
Oui.
Et donc, à force d'éradiquer les fausses notes, parce qu'on le fait, bien sûr, mais on est en train d'éradiquer la vie. Et ça, c'est un vrai problème.
Oui.
Donc, je me suis rendu compte que...
Comme si on la mettait sur des tuteurs.
Oui, c'est ça. Ça n'a aucun sens. La vie, donc, perd toute sa saveur. Et on est en train de perdre, justement... la liberté. On est en train de perdre notre joie. On est en train de se soumettre aux machines, à ces robots qui sont en train d'arriver, à l'intelligence artificielle qui est en train de nous remplacer. Voilà, parce qu'on nous fait croire que ça va régler le PFH, comme dit Hubert Reeves et aussi mon ami Pierre Rabhi. Le PFH, c'est-à-dire le putain de facteur humain. Mais c'est pas un putain de facteur humain. Voilà, c'est l'humanitude, comme dirait Albert Jacquard. Mais c'est quel regard je vais porter sur la dissonance ? Et aujourd'hui, il faut juste dire, reconnaître que la réponse sociétale aux fausses notes humaines, la réponse sociétale, elle devient, pour moi en tout cas, peut-être que je suis excessif, mais moi je trouve qu'elle devient de plus en plus hystérique. Il y a une vraie folie qui est en train de s'installer, qui m'inquiète énormément. Donc... Voilà, je ne veux pas plomber l'émission, mais c'est vrai que quand on prend les données de l'équation, c'est-à-dire les ressources qui s'amenuisent, peut-être que même dans 30 ans, il n'y aura même plus rien, des sols qui se raréfient avec le réchauffement climatique, avec à la fois la désertification qui augmente, à la fois la submersion des terres à cause de la fonte des glaces, et là-dessus, vous rajoutez une démographie galopante, c'est-à-dire, à l'horizon 2050, une estimation de 10 milliards d'êtres humains. Si nous restons dans la fausse note coupable, eh bien, et avec sa réponse qui est hystérique, la réponse à l'équation est simple.
Oui.
Nous allons nous entretuer.
Et oui.
Donc ça, ce n'est pas acceptable. Donc déjà, et pour résister, déjà, c'est retrouver la joie de ce que je suis, de qui je suis. Entrer en jouissance avec soi. Arrêter d'être en quête de cette jouissance. Arrêter d'être un consommurus, voilà, le consommateur. Hein. Et vraiment se réconcilier. Rentrer déjà dans une relation avec soi-même, ce que j'appellerais une relation pacifiée, qui me permet d'être en relation pacifiée avec les autres.
Et, oui.
Et ensuite, ces fausses notes, eh bien, ouvrir les yeux, me rendre compte que donc elles sont inhérentes à la vie. Voilà, la vie, sa spécialité, c'est de nous faire des croche-pattes. Tout va bien et patatras, on tombe dans les escaliers, patatras, il fait mauvais, ou patatras, il y a un décès soudain. Enfin, la vie, ou celle que l'on aime s'en va, ou le métier qu'on a, on le perd. Enfin, ça arrive tous les jours à des tas de gens. Un ami qui a un AVC, on perd nos parents. Enfin, c'est la vie, je ne vais pas vous apprendre la vie. La vie, elle est terrible. Et elle nous envoie des fausses notes qui peuvent nous terrasser. Alors, je devine la question que vous pourriez poser. Comment peut-on faire l'éloge ?
Oui, c'était une de mes questions, effectivement. Ouais. Concrètement, comment fait-on l'éloge de la fausse note ?
Et oui,
dans votre école,
c'est une vraie question, Myriam. Quand, effectivement, ces fausses notes peuvent nous terrasser. Et elles nous terrassent. Mais pourtant, comment voulez-vous faire autrement ? C'est que c'est la vie, c'est le jeu. Aujourd'hui, on entend les médias, c'est toujours des drames, des problèmes. Et aujourd'hui, maintenant, on remonte des histoires. Et donc, il y a des vengeances, des rancœurs. Donc, j'ai créé l'école de la fausse note parce que pour essayer d'apaiser les gens face à l'histoire de leur vie. Il y a des gens qui sont empêtrés dans des culpabilités parce qu'ils ont commis des fausses notes. Et souvent, les mêmes personnes qui sont empêtrées dans des colères parce qu'elles ont subi des fausses notes.
Oui.
Et dans les deux cas, que ce soit donc la rancœur, ou la culpabilité, ce sont des énergies très toxiques qui conduisent les gens au cimetière. Ça rend les gens malades, ça rend les gens fous, toute cette histoire.
Donc en fait, votre école, ça s'applique à tout âge, à tout secteur de la vie. Et ça n'est pas... Est-ce que vous utilisez aussi, vous qui êtes musicien, et puis par rapport à ce clin d'œil de la note, est-ce que vous utilisez la musique pour faire ce travail sur soi
Fondamentalement. Ah. Déjà, c'est d'expliquer aux gens, déjà que les gens viennent me raconter leurs fausses notes. Ouais, déjà, qu'ils puissent dire parfois leurs détresses invisibles qu'ils n'osent pas exprimer. Des problématiques relationnelles, problématiques avec les enfants, parfois des adolescences difficiles, des addictions diverses et variées, etc. La vie, quoi. Et puis, après, on va mettre en musique cette histoire. Et c'est d'expliquer finalement que en musique, la fausse note, elle est tout le temps là. Bach, le grand Bach, comme on dirait nos amis outre-Rhin, Johann Sebastian Bach, il y a des dissonances. Chez Mozart, il y a des fausses notes. Voilà, chez Rachmaninoff, chez Brahms, chez Vela, enfin tous les plus grands. et ça, c'est très important, de prendre conscience que la dissonance est absolument inhérente, voilà, à toute, je dirais, architecture musicale.
Alors, la fausse note, selon vous, ça serait une porte d'entrée pour apprendre à se connaître, à s'accueillir dans sa fragilité et donc dans ses fausses notes. C'est la porte d'entrée, la fausse note.
En fait, je vais vous donner vraiment la réponse. C'est Mozart qui nous la donne. Il répond à la question que beaucoup de gens se posent et dont ils n'ont pas la réponse. Quel est le sens de la vie ? Ça, c'est une question, une vraie question philosophique. Mozart nous répond, je dirais, d'une manière magistrale. Quand il écrit une fausse note sur la partition, il ne va pas mettre en dessous « Oh, je me suis trompé, je suis nul, j'arrête la musique. Pleurer, se morfondre, c'est grave. Catastrophe !» Non, Mozart va l'accueillir. Et il va en faire quelque chose. Il va la magnifier. Il va la transformer. Il va la rendre belle. Il va l'harmoniser. Et vous savez, Myriam, c'est ça qui nous fait pleurer. Justement, quand on écoute la musique, vous savez pourquoi nous pleurons, pourquoi ça nous touche? Ça, j'ai constaté ça. Souvent, les gens, quand ils sont en burn-out, en dépression, me disent souvent ça. Ils me disent, j'écoute beaucoup de musique parce que ça me fait du bien. Mais oui, parce que la musique donne des réponses. La musique, elle va raconter ta dissonance. Là, ce que tu es en train de vivre, peut-être cette séparation ou l'accident dont tu n'arrives pas à te relever. Et là, tu écoutes. Et Mozart, il y a cette dissonance qui, quelque part, rentre en résonance avec ton histoire. Mais toi, tu es dans le tunnel. Tu n'en vois pas le bout, voilà, tu es au fond du fond. Et Mozart, il te dit, écoute ce que j'en fais de ta dissonance. Et là, toi, tu pleures, et parce qu'il te donne une réponse, mais tu n'en as pas conscience, évidemment. Mais voilà, ça t'apaise, ça te fait du bien. Ce que nous dit Mozart, il nous dit, arrête de pleurer. Quand la vie envoie des fausses notes, arrête de geindre. T'es pas là pour ça. T'es là pour magnifier les fausses notes de l'existence. Et ça, pour moi, il nous donne vraiment ce qu'est le sens de l'existence. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où on fait des gens des victimes par légions entières, où les gens sont malades, souffrent, et on leur donne des médicaments. Et puis là-dessus viennent par-dessus le marché certains politiques qui viennent se servir de toute cette souffrance, qui vont instrumentaliser la souffrance avec des médias qui rajoutent des couches anxiogènes sur finalement ce qu'est l'être humain dans sa désespérance. Mais non, la fausse note est inhérente à la vie. Il faut arrêter de voilà, la vie, c'est prendre ce risque de s'user. Nous nous usons, nous vieillissons, voilà, c'est la vie, ça, et c'est pas grave. Nous nous blessons, le fait de nous rencontrer, de nous aimer parfois mal, fait que nous nous blessons. Mais c'est le jeu. Il faut comprendre que l'âme, lorsqu'elle s'incarne dans le corps, c'est pour user le corps, pour pouvoir s'amuser.
Ah, s'amuser, c'est très beau.
Vous comprenez? Et c'est là le secret de toute l'inspiration aussi, justement de la muse, de l'artiste. Voilà. Et c'est ça, donc, dans le fait de se donner dans l'existence. Aujourd'hui, nous créons une société donc, de gens complètement angoissés, anxiogènes, qui se réfugient derrière des écrans immenses de télévision, oui. qui sont tellement grands qu'ils leur ferment l'horizon, oui. Tous les possibles de l'existence. Et ces écrans ne diffusent que de la violence, trop souvent de violence. Des films, soit des films peur sur la ville, peur sur le lac, des monstres, des psychopathes qui tuent tout le monde, ou alors des zombies, ou alors des problèmes de virus. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on est en train de diffuser là?
De la peur.
Qu'est-ce qu'on est en train de montrer? Je parlais tout à l'heure de la pornographie, cette violence, mais, et dont il faut effectivement changer ces films. Mais il y a beaucoup plus pire. Enfin, est-ce qu'on peut dire beaucoup plus pire? Il y a beaucoup plus grave, pardon. C'est tous ces films qui semblent comme ça anodins, de ces films de violence, de ces jeunes qui voient tout, à longueur de journée, il faut tuer l'autre. Voilà, des jeux vidéo où on tue l'autre, dans ces films où l'autre est un ennemi. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans les cerveaux des gens? Que l'autre est un ennemi dont il faut se méfier? Qu'il faut se méfier de la vie, de l'amour? Là, on entend tous les jours les mots, il y a eu pas longtemps, porc, je crois, balance ton porc, la truie, et puis cet excès d'humanité, qu'on dit que c'est de la vermine, trop de cloporte, il y a trop d'eau. C'est quoi tous ces noms d'animaux que l'on met sur l'être humain? Il faut juste savoir que dans l'histoire, chaque fois que l'on a mis des noms d'animaux sur les êtres humains, les camps de concentration sont arrivés juste derrière. Donc un être humain, quel qu'il soit, demande un regard, pour moi, d'émerveillement, de tendresse, d'accompagnement. Ça, c'est fondamental. Et c'est ce que nous faisons à l'école de la fausse note. Et les résultats sont vraiment incroyables. Je travaille avec un psychiatre qui me dit, en une séance, on gagne des mois.
Ah oui. Mais c'est fabuleux. On pourrait d'ailleurs rappeler que vous allez bientôt vous produire sur Agen. Vous êtes à la salle de la Tannerie le 6 mars, suivi d'un stage.
Donc pour le 7 et 8, oui.
Le 7 et 8, pour tous ceux qui voudront découvrir. Et puis, pas très loin d'Agen, lors des rencontres Sciences et Consciences à Auvillard. Vous serez également aux rencontres Sciences et Consciences à Auvillard le 30 mai.
C'est ça.
Voilà. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin?
Est-ce que j'aurai un petit mot de la fin?
Ou si vous vouliez nous prêter vos lunettes?
Eh bien, je dirais juste, voilà, quoi qu'il arrive, c'est vraiment ça, rester aimant. Voilà. Et puis surtout, voilà, on parle beaucoup de religion en ce moment. Je crois qu'il n'y a qu'une seule prière, pour moi, c'est s'émerveiller. Juste s'émerveiller. Et diffuser ce souffle, voilà, déjà en soi et à ceux qui nous entourent.
Merci Marc Vella.
Merci beaucoup.
Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes, en quête de sagesse ou tout simplement inspirés, nous prêtent leurs lunettes pour voir le monde tel qu'ils le contemplent. Vous êtes dans l'émission Envie de sagesse.